liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. Parole de citoyen au singulier et tout attaché, @fréquence7.net. Nous lisons tous les mails que vous nous adresserez. Nous avions hâte de vous retrouver sur les ondes après notre longue absence, et cela bien malgré nous. Nos vies personnelles mouvementées ont trouvé le bon goût de nous mettre un peu de piment dans la vie. C'est avec une grande joie que nous reprenons cette émission si précieuse, Dominique et moi. Alors un petit retour en arrière. Cette émission a démarré il y a 4 ans, à l'issue du mouvement des Gilets jaunes. C'est une émission qui donne la parole, donne à voir, à s'exprimer, aux meilleurs expertes et experts du territoire Sud-Ardèche, à savoir vous, les citoyennes et citoyens. Vous êtes ces expertes et ces experts. Nous avons besoin de vous rencontrer et de connaître vos points de vue et vos idées. C'est toutes ces rencontres qui nous permettent de partager en toute convivialité ce moment. C'est pourquoi, pour cette nouvelle année, nous avons pensé à ce que l'émission soit sous forme de menu à déguster. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, au menu du jour. Une entrée, un plat de résistance et un dessert. Bon appétit! En entrée, Dominique fera le point sur les luttes, actions, conférences, passées et à venir sur notre territoire. En plat de résistance, nous discuterons toutes les deux de notre hôpital malade. Il va falloir l'ausculter, le diagnostiquer, le traiter. Et nous terminerons le plus légèrement possible en partageant avec vous la recette du jour. Oui, vous avez bien entendu, une idée de recette délicieuse en fin d'émission. Pour se mettre en appétit, avant l'entrée des luttes, Dominique, de quoi tu vas nous parler?
Alors bonjour à tous, et effectivement, pour en entrée, nous allons parler de ce qu'on appelait un peu les luttes et les actions citoyennes sur notre territoire. C'est-à-dire, c'est des infos sur ce qui se passe sur notre territoire ou ailleurs, et qui nous concerne tous. Alors dans un premier temps, nous avons tous été assez choqués ces derniers temps, bien que ça soit loin de nous, par toutes ces guerres qui se passent un peu partout, qui se multiplient sur la Terre, où des gens comme nous meurent au quotidien, des hommes, des femmes, des enfants qui n'y sont pour rien. Comme toujours, les populations sont victimes des combats que les planqués se livrent pour leurs intérêts. Par rapport à cette situation dramatique, toutes les semaines maintenant, depuis octobre 2023, des citoyens se retrouvent le samedi matin à 11h à l'Agora, à Aubenas, pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. C'est important pour montrer au monde que le peuple français ne soutient pas son gouvernement qui soutient, lui, la guerre, les guerres. Edwige, peut-être tu peux nous parler de le...
Alors, ben moi, je voulais aussi parler d'une lutte qui est toujours en cours. C'est la lutte de Saint-Pierre-de-Colombier. Parce qu'en fait, donc, ce grand projet inutile de Saint-Pierre-de-Colombier... risque de reprendre, en fait. C'est-à-dire que la suspension des travaux qu'il y a actuellement risque d'être annulée le 25 janvier par le jugement de la Cour de Nîmes. Donc je vous appelle à vous mobiliser le 25 janvier à 17h. On vous donne rendez-vous sur la place du marché à Saint-Pierre autour d'un vin chaud et de crêpes. Et vous pouvez apporter également vos instruments de musique, des petites boissons chaudes et des jeux, et surtout vos plus belles pancartes.
Une autre action citoyenne sur notre territoire, vendredi soir à Lussas, a été lancé le deuxième festival du cinéma paysan à l'initiative de la Confédération paysanne de l'Ardèche et de l'ADEAR. L'ADEAR, c'est une association qui aide à l'installation notamment de paysans. Alors j'y suis allée, et au-delà d'un film très intéressant et ouvert sur les questions qui se posent aux paysans aujourd'hui, les échanges dans la salle entre paysans et habitants, citoyens, sont particulièrement riches et indispensables pour envisager l'avenir. Ce festival a duré donc plusieurs semaines, parce que là il a démarré donc la semaine dernière, il se termine début février je crois, et sur notre territoire du sud Ardèche, les prochaines projections sont ce jeudi 25 janvier au cinéma Le Navire à Aubenas avec le film Douce France en présence du réalisateur, et dimanche 28 au Béage, vous pourrez amener les skis ce jour-là, le film La Ferme des Bertrands qui sera diffusé en avant-première. Et pour en savoir plus, il y a tout le programme, le descriptif des films, vous allez sur le site de la Confédération paysanne de l'Ardèche.
Alors, en ce moment, comme vous le savez, une grande mobilisation des agriculteurs dans toute la France, où la question de quelle agriculture nous voulons tous pour notre avenir est posée. Ces espaces de rencontre et d'échange avec la population, avec les citoyennes et citoyens, que nous sommes toutes et tous, sont importants. Les citoyens doivent avoir leur mot à dire sur quelle alimentation ils veulent, par qui et comment. Ces questions sont importantes.
Une autre info pour tous les citoyens du territoire de la communauté de communes du bassin d'Aubenas, il y a un plan local d'urbanisme intercommunal qui est en cours d'élaboration et nous sommes tous amenés à le commenter, à dire ce qu'on en pense, etc. dans la durée. Donc ça s'est lancé, ça dure sur plusieurs mois, on aura l'occasion d'y revenir, il y a eu des réunions sur le territoire. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Simplement, je pointe que a lieu actuellement, et pour une durée limitée, puisque c'est jusqu'en février, une consultation de même qui concerne le plan local d'urbanisme de Aubenas uniquement, avec une modification qui est proposée. Donc on peut aller le voir sur le site de la mairie d'Aubenas ou aller le consulter en mairie même d'Aubenas. Il s'agit de modifications mineures du plus, si j'ai bien compris ce que je suis allée voir. J'y ai découvert quand même que un terrain avait été visiblement racheté par la communauté de communes pour créer une résidence pour personnes âgées à Aubenas. Et si j'ai bien compris... ça semblerait être un projet privé. Donc là, il serait peut-être intéressant de se pencher sur ce sujet, peut-être une prochaine fois, comment un terrain municipal puis communautaire pourrait finir dans les mains du privé. Là, on s'interroge.
Une affaire à suivre. Quoi.
Voilà. Alors, dernière information pour aujourd'hui. Pour faire lien avec le sujet suivant, nous nous centrerons sur un aspect particulier de ce sujet, la loi immigration de Darmanin, donc pour laquelle on est en attente très prochainement de la position du Conseil constitutionnel, et pour laquelle tous les samedis à 10h depuis maintenant 3 semaines, je crois, un peu la rentrée, des citoyens partout en France se mobilisent, et à Aubenas c'est le cas, le samedi matin à l'Agora, voilà, depuis plusieurs fois. Moi, ce qui me choque beaucoup dans toutes ces dispositions, c'est qu'on nous les présente d'une certaine manière qui correspond rarement à la réalité des choses pour nous. Et concrètement, nous savons que sur ce domaine-là, ça n'a pas finalement pas été intégré dans la loi, mais c'est toujours proposé. Autant le Sénat que les Républicains que le RN veulent introduire la suppression de l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, c'est pas une action de charité pour des gens quelconques venus d'ailleurs. L'aide médicale d'État, c'est une protection pour notre santé à nous tous, pour éviter que des maladies débarquent et se répandent sur le territoire sans qu'on puisse être protégé contre ça. La suppression de l'aide médicale d'État, c'est une atteinte à notre santé, pas à d'autres choses que ça. Et je pense qu'ils n'en disent rien de ça. Ils le présentent comme je ne sais quoi, comme s'il y avait des gens qui en profitaient ou quoi. Les seuls profiteurs de ça, c'est nous, en protégeant notre santé. Donc voilà pour la partie action citoyenne, lutte, enfin, etc. sur notre territoire.
Alors on va passer maintenant au plat de résistance. Donc vous l'avez compris en début d'émission, on parlait de l'hôpital malade. Donc la maladie de l'hôpital. Et donc pour se mettre en appétit avant le sujet, On va écouter un extrait des urgences de Valence.
Un jour, les politiques ont voulu faire du fric
sur la santé des gens. Certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous, sur les urgences, au lieu de maltraitance, des heures sur un brancard, tiens voilà une escarre. Nous on fait tout ce qu'on peut, on veut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien et on n'a plus de moyens. Ici se joue un drame et là on sonne l'alarme. Ça nous fait mal au cœur mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne fermez plus les lits, conserver tous nos postes, assurez-nous des stocks. Dans le couloir des urgences, tellement on a de brancards. Défaut de surveillance, pour se morcer trop tard. Le fruit de décisions prises sans concertation auprès de nos bonnes pommes, et là tout qui décolle.
Oui, alors là, comme vous l'avez deviné, on va parler de l'hôpital. Encore, vous allez dire encore, oui. L'hôpital est malade. En tout cas, c'est ce qu'est venu présenter le docteur Jean-Luc Roer, ancien médecin hospitalier, dans le cadre d'une conférence débat à la bobine avec ATTAC la semaine dernière. La dégradation du système de santé et la crise de l'hôpital. Il a surtout parlé de la crise de l'hôpital, vue de l'intérieur, au vu de son expérience très très solide et très construite. D'abord, quand on veut parler de notre santé, encore faut-il en connaître les déterminants, c'est-à-dire par quoi notre santé est déterminée. Les études démontrent que 20% de notre santé est déterminée par le système de soins et la protection sociale, 15% par des déterminants génétiques et biologiques, 15% par l'environnement physique et 50% par l'environnement social et économique. D'où la nécessité d'une collaboration multidisciplinaire et des politiques publiques prenant en compte tous ces domaines de manière cohérente et notamment en action préventive, pour empêcher l'apparition d'un tas de maladies qu'on voit aujourd'hui. On va donc mettre un focus sur l'hôpital, comme l'a fait le docteur Grauer l'autre soir, qui est un de nos sujets quotidiens de soucis, de préoccupations en Sud-Ardèche, sans oublier qu'il ne résume pas tous nos besoins en matière de santé, loin de là.
Mais alors, Dominique, qu'est-ce qu'on constate tous les jours à l'hôpital ?
Alors, on avait vu qu'il y avait, on avait écouté ensemble avec Edwige une chanson de Pierre Perret qui nous avait beaucoup plu et on se dit qu'on pourrait peut-être vous faire écouter une partie maintenant.
La salle commune est pleine et le docteur regrette que pour 40 il n'y ait qu'un cabinet de toilette. Et que ces deux infirmières, accablées de labeur, qui sourient et qui grondent, mais ne comptent pas les heures.
Alors oui, c'est ça le constat. On ausculte l'hôpital et voilà ce qu'on voit, quels symptômes il nous présente aujourd'hui, ce que décrit Pierre Perret, mais aussi bien d'autres choses. De plus en plus de gens n'ont pas de médecin traitant sur notre territoire, ça on le sait, je crois qu'on l'a estimé à 40% à peu près. Il nous faut des délais de plusieurs mois pour avoir un rendez-vous, surtout du côté des spécialistes, et donc des suivis nécessaires, urgents, qui n'ont pas lieu pour des gens malades. Des délais importants pour avoir des examens d'imagerie médicale ou des scanners, avec parfois obligation d'aller les faire loin d'ici. Des gens mécontents de l'accueil reçu en milieu hospitalier, il y en a. Pas toujours, mais il y en a. On ne sait plus vers où se tourner. Les urgences ferment régulièrement la nuit. Pas de médecin traitant. On paye de plus en plus cher. Le reste à charge pour les patients ne cesse d'augmenter. La prise en charge des mutuelles complémentaires baisse. Et sans mutuelles, n'en parlons pas. Et nous pouvons tous raconter nos galères localement pour accéder à des soins. Je ne sais pas, Edwige, si toi, tu as rencontré ces galères.
Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je ne suis jamais malade. Donc, on va dire que c'est... Pour l'instant, j'ai de la chance. Mais par contre, j'ai des tas de témoignages d'amis qui ont tendance à repousser leurs soins ou à appréhender parce qu'ils savent que les délais sont trop longs et en plus, souvent, la qualité des soins n'est pas bonne, le temps consacré est insuffisant. Voilà, ils sont assez déçus hein, dans l'ensemble. C'est pas un bon c'est pas un bon bilan hein, que je peux donner.
Oui, voilà, donc on a tous des témoignages dans nos familles, dans notre vie, nous-mêmes. On ne jette pas l'opprobre sur les professionnels parce que et je suis bien placée pour le dire, là je viens de passer quasiment un an en hôpital, et je n'ai pas à me plaindre de personne, parce que je me demandais même comment ils arrivaient à faire que ça soit aussi peu difficile à vivre, malgré le contexte dans lequel ils étaient. Donc chapeau à eux pour arriver à nous faire vivre correctement des moments qui sont particulièrement difficiles, y compris d'ailleurs les médecins traitants en ville. Mais la question est, à quoi peut-on attribuer ce constat ? En termes de diagnostic, donc de la maladie de l'hôpital, on a vu des tas de signes, de symptômes, de choses qui ne vont pas bien du tout. Alors on nous dit, on manque de médecins, on manque d'infirmières et d'aides-soignantes, la santé coûte trop cher, la sécu n'a plus les moyens, la population vieillit, les patients et les médecins sont laxistes, ils donnent trop de médicaments, etc. Donc ce qui coûte cher à la sécurité sociale. Alors voilà, etc. Ça c'est le discours qu'on nous sert, avec en explication que les professionnels lâchent le métier parce qu'ils n'ont plus la vocation, parce qu'ils sont feignants, que vraiment on coûte trop cher à soigner et on est trop vieux. Or des explications, il y en a, et elles sont strictement dues aux politiques mises en œuvre. Il n'y a plus de médecins car dès 1970 on a instauré un numerus clausus, au prétexte de vouloir ainsi qu'on se soigne moins et que donc ça coûte moins cher à la sécu. Notre santé, ils s'en foutaient déjà. Et au bénéfice des médecins libéraux en place qui ne voulaient pas partager le gâteau. En plus, comme si ça ne suffisait pas, en 1998, on a mis en place le MICA, qui est une sorte de retraite anticipée pour les médecins, qui leur permettait de partir en retraite à taux plein à 57 ans. Donc on a perdu 10 000 médecins qui se sont arrêtés de ce fait. On les comprend. On les comprend, on aurait sans doute fait pareil qu'eux. Les maladies qui ont augmenté, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les maladies chroniques, fortement liées aux conditions de vie, environnement social et économique, c'est-à-dire la pauvreté, le mal logement, la malbouffe, les addictions.
Parce qu'il doit manquer de prévention, je pense.
Alors, il n'y a plus du tout de prévention, puisque la prévention reposait essentiellement sur les médecins traitants. Et comme ils disparaissent les uns après les autres et que l'État fait tout pour les faire disparaître, ça a été d'ailleurs... quasiment, j'ai l'impression, un objectif de la crise du Covid, ça a été de faire disparaître les médecins traitants. On les a court-circuités complètement.
Donc, et de moins en moins. Ça veut dire que les patients, ils arrivent, ils sont déjà très malades, finalement ?
Enfin, alors, les patients, là, quand ils atterrissent quelque part, comme ils n'ont plus de médecins traitants, que les rendez-vous sont très longs à obtenir, ils sont déjà très malades. Mais il y a toutes ces maladies installées, qu'on appelle des maladies chroniques, que de toute façon... Quand on les diagnostique, elles sont déjà présentes. Quand elles sont liées à 30 ans de malbouffe, parce que on était trop pauvre pour acheter de la bouffe de bonne qualité, ou on ne savait pas qu'il y avait de la malbouffe et de la bonne bouffe. Quand on vit dans des logements humides et insalubres, etc., c'est pas en 6 mois qu'apparaissent les maladies et qu'elles deviennent chroniques. C'est au bout de plusieurs années de vie dans ces conditions que petit à petit, l'état de santé se dégrade et ils ne se remettent pas. C'est des maladies chroniques. Tout ce qu'on fait après, c'est pallier pour faire en sorte que les gens n'en meurent pas trop vite. Mais alors, en plus, avec les maladies chroniques, on devient très fragile à toutes les autres maladies. Ça a été le cas pour le Covid. Qui est-ce que le Covid a sabré ? C'est les gens qui avaient des maladies chroniques, automatiquement. Donc la prévention, elle a disparu du champ de notre santé, de notre système de santé, alors que 50% des maladies sont de ce registre-là. Et après, si on prend la formation médicale et tous les choix politiques qui sont faits en matière d'équipement, d'investissement, etc., ils privilégient de plus en plus la dimension technique de la médecine. On vous vante la machine qui découpe ci, le truc, etc., mais en aucun cas la dimension humaine. Alors que pour accompagner quelqu'un qui a une maladie chronique, c'est une dimension humaine, parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte dans son état de santé, ou à faire changer, etc. Il y a des dimensions sociales, des dimensions économiques, etc., qui n'ont rien à voir avec les formations actuelles des médecins.
Alors, je te propose de faire une petite pause musicale pour le temps de reprendre notre souffle. Et on vous retrouve dans quelques secondes.
Vous ne demandez pas la lune, seulement de quoi nous recevoir. Mais ceux d'en eux n'entendent pas ceux d'en bas quand on reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Vous ne demandez pas le moon, seulement le minimum vital. Mais la vie a un prix dans ce monde et le monde d'en haut ne retient que ce qui est rentable. Vous ne demandez pas l'impossible, seulement d'ouvrir un peu les yeux, vu que les leurs regardent ailleurs quand l'hôpital meurt à petit feu. Vous ne demandez pas grand chose, surtout pas partir en guerre, vu que la guerre ça prend des vies, mais sauver des vies ça vous savez faire.
Nous, on veut continuer à soigner encore, voir
Alors, la gestion des hôpitaux a considérablement changé. Est-ce que tu peux nous en parler, Dominique ?
Alors, je vais aller très, très vite parce que je vois que notre temps s'écoule. Là, on a trop parlé. Rapidement, je vais simplement vous indiquer qu'on a filmé l'ensemble de la conférence du professeur Grauer et que c'est accessible sur YouTube, sur la chaîne de YouTube. Il y a à la fois pluriel, donc il y a à la fois la conférence et les débats. Donc, on pourra en reparler à d'autres occasions de l'hôpital et de tout ce qui est. D'où ce qu'on s'est aussi posé comme question, c'est qu'est-ce que nous proposons comme traitement pour cet hôpital ? Parce qu'on sait ce qu'on nous propose et qu'on entend tous les jours. Et à contrario, en complément, on s'est dit qu'il y avait quand même des éléments qui ressortaient de tout ce qu'on entendait. La formation de médecins. Et il faut l'améliorer. Il faut pour cela donner les moyens aux facultés de revenir à un nombre de médecins formés suffisant. Changer la sélection des médecins, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas un bac scientifique, il est hors de question que vous fassiez des études de médecine. Or, on a besoin de gens capables d'aimer, d'entrer en relation.
L'empathie.
Avec, voilà, d'empathie, etc. C'est un mot à la mode. Mais simplement de comprendre d'humanité, tout simplement d'humanité. Et non pas de médecins qui se réfugient derrière des machines comme ceux qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui. Et il faut donc intégrer des contenus en sciences humaines. Au niveau des hôpitaux, ça devient scandaleux qu'ils soient dirigés par des comptables. Il faut que nos hôpitaux reviennent à une direction partagée entre tous les personnels soignants et administratifs. Et que les médecins aient leur mot à dire sur les prescriptions. C'est pas au comptable à décider comment on soigne les gens. Que les infirmières aient leur mot à dire sur l'organisation du travail, etc. C'est à ce prix que les médecins et les infirmières resteront dans les hôpitaux. Il faut aussi inscrire l'hôpital dans un ensemble cohérent de réponses coordonnées et remettre le médecin généraliste auprès du patient et le patient au centre du système de santé. Il faut aussi rémunérer les étudiants en médecine et tous les étudiants des professions de santé, infirmières, etc. Il faut qu'ils soient rémunérés pendant leurs études qui sont souvent largement en face du patient et dans un système de service quelconque. Quoi. Voilà.
Et alors, est-ce qu'on aura le temps de passer au dessert ?
Alors,
qu'est-ce que tu nous proposes comme recette, Dominique ? Bah
écoutez, moi, je vais vous donner une petite recette issue de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. En soutien au peuple palestinien, c'est notre façon de le soutenir, qui est aujourd'hui colonisé, génocidé, dont on détruit la culture. Voici une recette palestinienne, dont on retrouve des variantes dans tout le Moyen-Orient, puisque c'est à peu près les mêmes. C'est la recette du kebbeh. Très rapidement, je vous dis ce qu'il faut pour le faire. Donc, il faut de la viande hachée, des boulettes de bourgoule à fabriquer, du bourgoule, des oignons, des épices mélangées. Vous achetez des 5 épices ou 7 épices, vous demandez ça, du Moyen-Orient, on vous en donnera. Vous faites d'un côté la pâte au boulgour avec 100 g de boulgour fin, comme le taboulé, 250 à peu près litres d'eau bouillante, du sel, du poivre, du paprika et 70 g de viande hachée. Ça, vous le malaxez tout ça, vous le malaxez bien, et avec ça, vous faites des petites boulettes en forme de ballon de rugby. Ça fait une pâte, vraiment comme une pâte à tarte ou à gâteau, en forme de petit ballon de rugby. Et à côté de ça, pour la farce, vous faites revenir 300 g de viande hachée avec un oignon, un peu de toujours pareil, de ces épices bien mélangées, de la coriandre, enfin, etc., de la menthe, vous y mettez ce que vous voulez, des raisins secs, des pignons. Et vous le faites revenir. Et ensuite, vos boulettes de kebbeh, avec votre doigt, vous faites un trou au milieu, à un bout, et dedans, vous farcissez avec votre viande revenue, avec ses oignons, etc. Et vous refermez délicatement, et vous faites frire tout ça. Et voilà. Et profitez-en.
Eh bien, ça donne envie. Hein. Il va falloir qu'on essaye. Hein.
Ben oui.
Bon, il va être temps qu'on se quitte, parce que je crois qu'on a déjà dépassé le format de l'émission. Et donc, on va d'abord remercier Sylvain, qui nous a vraiment bien accompagnés au niveau technique et sourire aussi. Et on va se dire à très bientôt.
Dans 15 jours.
Dans 15 jours. Et on espère vous retrouver maintenant très régulièrement. Allez, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique.
convoiter, nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.